الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله.
Pour cette dernière partie ce soir, comme vous avez pu le voir dans le programme qui vous a été remis, nous allons aborder la question, qui est une question qu'il est nécessaire d'aborder véritablement dans la communauté musulmane aujourd'hui en France, et plus généralement d'ailleurs dans les communautés musulmanes en Europe, tant il est vrai qu'on s'aperçoit qu'il y a de gros problèmes dans la gestion que nous avons de ce qui est la pluralité et la diversité des origines des sœurs et des frères qui forment la communauté des musulmans. Et en particulier, bien entendu, comme il vous est mis en évidence, la question de la conversion, la question des convertis, comme on peut le mettre en évidence et comme l'on traduit ainsi ceux et celles qui, dans leur cheminement personnel, à un moment donné de leur vie, ont trouvé dans l'islam, par la grâce de Dieu et par sa seule volonté finalement, un sens à leur vie, un sens à leur cheminement spirituel dans l'islam. Et de quoi s'aperçoit-on? On s'aperçoit que si beaucoup d'entre les musulmanes et beaucoup d'entre les musulmans sont contents, heureux, satisfait, quand il voit et il rencontre une personne qui est française de souche, comme l'on dit, ou qui n'était pas musulmane et qui est venue à l'islam, autant on s'aperçoit que souvent les gens sont contents et sont satisfaits, autant on s'aperçoit également que à l'intérieur de la communauté, à l'intérieur des associations, parmi les musulmans, le discours de satisfaction n'est pas accompagné, n'est pas basé, n'est pas fondé sur la réalité, d'une part, d'une fraternité, mais surtout d'une véritable, je dirais, intégration, d'une véritable compréhension, et même parfois de jugement qui reste tout au long de la vie de celle ou de celui qui à accepter l'islam et vis-à-vis duquel, finalement, certains et certaines dans la communauté n'oublient pas le passé. Et donc, c'est un problème. C'est un problème qu'il faut regarder en face parce que il fait partie de ces considérations qu'en tant que musulmane et en tant que musulman, nous ne devons pas délaisser, idéalisant l'islam et oubliant la réalité de ce que sont les musulmanes et les musulmans aujourd'hui. Et je vous promets que quand vous êtes à l'écoute de ce que certaines et certains peuvent dire, de la façon dont on les traite, dans la façon dont on les néglige, dans la façon dont on est indifférent à leur égard, eh bien, outre les larmes et la tristesse que cela peut faire naître dans votre cœur, eh bien, vous vous posez la question de savoir, mais qu'est-ce que ce discours de la communauté musulmane qui veut témoigner de l'universalité de son message et qui propose à tous ceux qui viennent à elle la particularité de leur origine. Parce que si l'islam est universel, il faut le vivre comme étant un message universel et non pas comme étant confondu avec la façon dont notre origine l'a vécu. Et je crois que c'est important de se souvenir d'un certain nombre de choses. Alors, je vais aborder la question en quatre moments et essentiellement deux moments sur lesquels nous allons nous rappeler d'un certain nombre de principes simples, mais sur lesquels, Encore une fois, il faut que nous insistions parce qu'ils sont importants. Il y a deux choses dont il faut se souvenir. La première des choses, c'est que, comprenez-le véritablement. Une femme et un homme, une femme ou un homme, que Dieu a fait cheminer parfois de l'absence totale du souvenir de Dieu, ou parfois dans une autre religion, le fait de croire ou d'être croyant dans une autre tradition, mais quelqu'un pour nous que Dieu a fait cheminer de l'indifférence ou de la distance à la proximité avec Dieu, au fait de se souvenir, au fait de changer sa vie, au fait de se réformer, au fait d'ouvrir son cœur. C'est quelqu'un que Dieu aime. Et c'est pas rien de le dire. Quelqu'un qui a fait tout ce cheminement et que Dieu lui a fait vivre tout ce qu'il a pu vivre, ou lui a fait vivre tout ce qu'elle a pu vivre pour l'amener à dire « Ashhadu an la ilaha illallah », c'est un être que Dieu aime parce qu'il l'a rapproché de lui. Et donc c'est reconnaissance de l'amour de Dieu pour ceux qui, à un moment donné de leur vie, partent parfois de très loin et viennent très près, est déjà quelque chose qui devrait habiter cette communauté. Attention, non pas intellectuellement, disant « mais on sait ce que tu dis », mais le vivre véritablement, en faisant ce que l'on dit. Savoir que quand on s'approche de quelqu'un qui a ce cheminement-là, il y a une dimension d'amour et de reconnaissance d'amour qui est importante. Qu'est-ce que ça veut dire, ceci? Ça veut dire qu'on ne peut pas et qu'on ne doit pas, à partir d'une personne, et comprenez-le bien, une personne qui est venue au travers de ce cheminement-là, en permanence et sa vie durant, lui reprocher son passé ou le lui rappeler. Alors c'est vrai, chez certains d'entre nous, même pour certains qui sont nés musulmans ou nés musulmanes et qui tout à coup se mettent à pratiquer, vous avez des frères et des sœurs qui disent « oui, maintenant il vient avec son islam ou elle vient avec son islam, moi je sais ce qu'elle était avant. Il se trouve mon frère, il se trouve ma sœur qu'avant c'est avant et maintenant elle est ce qu'elle est. Il faudrait que tu sortes de ta mémoire le jugement de ce qui te permet de dire ce qu'elle fut. Si tu viens me donner une leçon, moi je sais ce que tu étais, ce que tu faisais avant. Ce que je faisais avant, je le faisais avant, je ne le fais plus maintenant. Et on commence à partir de maintenant. » Ça c'est vrai pour ceux même qui commencent à pratiquer. Mais j'aimerais vous dire qu'il y a un certain nombre de frères et de sœurs qui viennent à l'islam et qui voient dans la communauté une espèce de regard presque un peu, pas méprisant, je n'utiliserai pas ce terme qui est trop fort, mais un tout petit peu comme ceci, hautain. De là d'où tu viens, ce que tu as fait dans ton passé, et ça reste. Alors que j'aimerais vous dire une chose, à partir du moment où la personne a dit « Ashhadu an la ilaha illallah » ou « Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh » à partir du moment où elle a fait la shahada et qu'elle a pris ensuite, elle a fait ensuite l'ablution rituelle, la différence entre elle et nous est énorme. Vous savez pourquoi? Parce que cette personne, c'est comme si elle était née à nouveau. Alors que toi, tu n'es pas né à nouveau. Toi, tu as ton passé. Mais ce que toi, tu as supporté, d'autres n'ont pas à le supporter. Au moment où Dieu a aimé tellement une personne qu'elle entre dans l'islam en disant la shahada, elle est toute neuve. Et tu n'as plus le droit, toi, de rappeler son passé pour la salir ou pour la diminuer. Tu n'as pas le droit de rappeler à une personne son passé pour la salir et la diminuer. Ni dans ta bouche, ni avec tes mots, ni avec des pensées qui interviennent à des moments donnés quand tu vois quelqu'un qui vient à l'islam et qui peut-être parfois peut commettre des erreurs. Parce qu'il n'a jamais été dit que quelqu'un qui était aimé par Dieu et qui est venu à l'islam allait cesser d'être un être humain. Ils vont faire des erreurs. Et peut-être il y a des choses qu'ils ne savent pas. Mais ceci, il nous est interdit à nous. Parce qu'on voit quelqu'un qui fait des erreurs, parce qu'on voit quelqu'un qui n'a peut-être pas les mêmes opinions que nous dans la pratique de sa religion, de le diminuer. Et puis même parfois de jeter le soupçon. Et ça, en matière de soupçon, on est vraiment des champions. Et le prophète alayhi salam nous a avertis, Iyyaka wadh-dhann, inna dhanna akdhabu al-hadith. Attention, attention au soupçon. Parce que le soupçon, c'est le plus mensonger des propos. C'est le prophète alayhi salam qui a dit ça. Et le soupçon à l'endroit de n'importe quel de tes frères et de tes sœurs. Et il y en a certains, ils voient un frère, ils voient une sœur qui vient à l'islam, et ils n'oublient pas qu'avant elle ne l'était pas. Il y en a même certains, quand ils les voient agir et qu'ils ne savent pas, tout de suite il y a le soupçon. Et il y a des choses graves. Qu'est-ce qu'il était avant ? Et des choses qui interviennent, et je vais le dire avec la douleur que j'ai pu sentir chez un certain nombre de frères, et parmi ceux-ci, l'un des grands noms de ce siècle en matière d'apport à l'islam, qui s'appelle Mohammed Assad, rahimahullah. Il se trouve qu'avant d'être musulman, il était juif, et qu'il y en a certains qui ne l'ont jamais oublié. Il le regarde comme ça quand il fait une erreur, il dit, mais dis donc, lui, qu'est-ce qu'il était avant ? Ce qu'il était avant ne te regarde plus. Vis avec ce qu'il est maintenant. Et rappelle-toi que le prophète alayhi salam t'a dit, Iyyaka wadh-dhann, arrête de soupçonner. Et avec lui comme avec tous les autres. Mais il y en a certains, et c'est toujours en train de trotter dans leur tête, de se poser la question de savoir, que ce soit avec des frères ou que ce soit avec des sœurs, qu'est-ce qu'elle faisait avant ? Moi je sais. Pas qu'ils nous racontent des histoires. Vous avez décidé, parfois par votre jugement, que Dieu ne pouvait pas faire le miracle de changer totalement une personne. Mais bien sûr qu'il le peut. Il peut plus que ça encore. Il peut la faire renaître. Par le simple fait qu'elle ait dit la shahada, il peut plus que ça. Mais c'est tes yeux à toi. Comme il a dit le frère, c'est ton cœur qui est aveugle. Parce que tu vois que, non, c'était sa vie. Alors, deux choses. Ne pas reprocher à quelqu'un son passé. Et surtout, ne pas le mépriser par son passé une fois qu'il est devenu ou qu'elle est devenue musulmane. Ça, c'est une chose qui me paraît très très importante. Mais en même temps aussi, il ne faut pas demander à une personne qui a fait tout ce chemin de nier son passé. Et il y en a certains qui sont avec les personnes de notre communauté, comme si pour pouvoir vraiment me montrer que tu es un authentique musulman ou une authentique musulmane, il faut que tu te coupes complètement de ce passé. Mais non, dans ton passé, il y a plein de choses de bien, utilise-le. Tout ce qui est bien, tu le prends. Tu t'éloignes de tout ce que tu faisais qui n'était pas bien, de tout ce que tu avais comme attitude qui n'était pas bonne, mais tout ce qui est bien dans ton passé, garde-le. Mais il y en a certains, c'est pas du tout ça. C'est comme si tout le passé, il fallait le jeter. Non, on n'est pas une société. Et surtout, on n'est pas une communauté du tout ou rien. Pour te montrer que je suis un bon musulman, faut que je n'ai plus de passé. Mais non, j'en ai un passé. Dans cette communauté, hors de cette communauté, j'ai un passé. Et nous, on a un double, ce qu'on appelle en anglais un double standard, un double paramètre d'évaluation, parce que suivant le passé de qui c'est, ça nous intéresse. Parce que ça, il y a converti et converti parfois chez nous. Parce que certains, alhamdoulillah, reconnaissent dans le cheminement d'un certain nombre de convertis quelque chose qui est un signe pour eux. Et vous connaissez tous Yusuf Islam, hafizahullah, Cat Stevens. Mais c'est parfois son passé qui force ton respect. Alors pourquoi ferais-tu avec Yusuf Islam ce que tu ne ferais pas avec un autre frère? Parce que pour être un bon musulman, tu as décidé qu'il fallait que je fusse un grand chanteur. Et que si je suis dans ton quartier ou de ta même ville, tu as une autre façon d'évaluer les choses. Qui t'a permis de faire ça? Au nom de quoi tu te permets de faire ça? En d'autres termes, on n'a pas le droit de faire ça. Et autant on doit le respect à celui qui vient de très haut pour nous, autant on doit le même respect à celui qu'on imagine venir de très bas. À partir du moment où, quand il vient, il est exactement à égalité avec nous. Donc cette dimension, ne pas rejeter le passé, mais en même temps, ne pas faire en sorte de le reprocher en permanence. Deuxième point dans cette première partie, il faut qu'on se mette d'accord. Qu'est-ce qu'on cherche les uns et les autres? Vous êtes tous et toutes ici en majorité, mais pas complètement, mais toutes et tous en majorité, la grande majorité d'entre les personnes qui sont ici sont musulmanes. Et on est bien d'accord. Ce qu'on veut pour quelqu'un dans cette communauté de spiritualité, c'est quoi? C'est qu'elle ou qu'il soit musulmane et musulman. Mais on n'a pas dit arabe, on n'a pas dit turc, on a dit musulman. Et il y en a, c'est la grande confusion. C'est-à-dire que si tu commences pas dans ta pratique à ressembler à comme j'ai compris l'islam avec mon origine et mon histoire, ça prouve que tu n'as pas complètement compris ce que c'est que l'islam. Mais non, mon frère, mais non, ma sœur. Tu as peut-être une origine qui a fait que tu étais musulman quand tu es né. Mais il y a une façon de vivre l'islam qui est liée aussi à ta culture, à ton origine. Mais tu ne peux pas m'imposer ça à moi. Parce que si l'islam est universel, je ne dois pas devenir arabe pour être meilleur musulman. Tu ne dois pas me demander de renier mon histoire pour accueillir ta religion, puisque ta religion dépasse ta propre histoire, ta propre culture. Et alors il y en a certains, si tu n'as pas tout à fait un comportement comme en Afrique du Nord ou comme là-bas, tu n'as pas vraiment un comportement comme il faut. Et ils font une colonisation des principes de l'islam avec un vêtement culturel qui n'est pas l'islam. Alors que ce qui devrait se passer, c'est de prendre dans la personne qui a fait tout ce cheminement vers l'islam, tout ce qu'elle a de bien, même de sa culture. Et si l'islam est universel, il prendra de la France et de l'Europe tout ce qu'il y a de bien. Parce que tout ce qu'il y a de bien nous appartient. Tout ce qu'il y a de bien est islamique. Et nous, non. Parfois, ce qu'on commence à penser, c'est que les convertis doivent être colonisés culturellement. Avec des choses parfois que personne ne comprend. Et vous savez qu'il y a, même au niveau culturel, il y a des choses que quelqu'un qui est originaire d'Afrique du Nord ou de Turquie comprend par son histoire, mais ce n'est pas l'islam, c'est sa culture. Il y a les principes islamiques, et tout ce qui est les principes nous unissent. Mais on doit admettre qu'il y a des pluralités de façon de vivre les choses. Qu'il y a une façon de vivre qui est française, une façon de vivre qui est européenne, une autre façon d'être les uns avec les autres. Puis il y a une façon de vivre l'islam à la façon plutôt orientale. Mais l'islam n'est pas oriental. On ne va pas faire une OPA sur l'islam. Disant c'est comme ça qu'il faut le vivre, parce que moi je l'ai vécu comme ça. Toi tu l'as vécu comme ça, mais les principes de l'islam dépassent ta façon de l'avoir vécu. Il appartient à tout le monde. Et tout ce qu'il y a de bien chez les Français qui vont vivre l'islam comme ceci, ben c'est bien. Ne commence pas à me demander d'entrer dans ta façon de le comprendre. Et alors que des fois, que ce soit dans des couples, ou que ce soit dans la communauté, vous connaissez ça, pour ceux qui sont d'origine nord-africaine, c'est hyper difficile à comprendre comment on vit, nous, des fois. Culturellement. Dans nos relations de famille. Et tu regardes la personne, tu dis, je comprends pas bien comment ils vivent. Et dis, mais tu comprends, c'est... C'est ça. Des fois, toi, t'es marocain, tunisien, ça, tu comprends, tu comprends. Les trucs, je comprends rien du tout. Mais ça, c'est pas l'islam, c'est ta façon de vivre. Dans ta relation même avec... Il y a des façons, des fois, dans les relations... On a des principes dans la relation entre les parents et les enfants. Mais c'est pas forcément comme... l'islam, ce sera pas forcément comme on les vit. On respectera les parents selon les principes, mais toutes les relations et la façon de se parler, ben, vous savez que c'est pas pareil. Des fois, vous regardez, pour ceux qui sont originaires d'Afrique du Nord, vous regardez comment les Français se parlent de souche dans les familles. Vous dites, oh là là, mais moi, si je disais ça à ma maman. Parce qu'ils se parlent différemment. Et eux, des fois, ça les énerve. Ils disent, mais vous n'arrivez pas à vous dire les choses clairement. Non, tu comprends. Mais c'est comme ça, c'est vrai. Et quand vous le vivez dans la famille, c'est sûr. Vous voyez, des gens, ils se parlent beaucoup plus directement. Des fois, dans le respect qui est dû des règles islamiques, la fille et le fils parlent à son père ou à sa mère différemment qu'on parle en Afrique du Nord. Et c'est pas irrespectueux. Toi, tu vois ça avec tes yeux. Toi, tu dis, oh là là. Rien que, par exemple, la façon de se tenir dans un salon. Toi, tu vois, toi, mettre une jambe sur l'autre devant tes parents. Et l'autre, il n'y voit rien du tout. Qu'est-ce qui se passe? Vous comprenez? C'est ça qui est très important. C'est que ça, c'est pas l'islam. L'islam, c'est les principes de respect sur lesquels on va s'appuyer. Mais après, il y a des différences, des divergences qu'on va respecter chez les uns et les autres. Mais ce qu'il faut qu'on fasse tous, c'est que ceux qui sont nés avec cet islam-là reconnaissent qu'il y a une part de culture et qu'ils fassent la part des choses. Et que les Français qui viennent à l'islam ne commencent pas à être complexés de ne pas avoir cette part de culture. On prendra de tout ce qu'il y a de bien. Et les uns et les autres doivent se comprendre. En islam, il y a une part de principe et il y a une part de culture. On s'unit sur les principes et on se respecte sur les cultures. Et non pas une colonisation. Comme il y en a un, quand je faisais cet exposé, il me dit, tu sais, ça m'a fait réfléchir ce que tu me dis, parce que moi, comme français musulman, je me suis converti, j'arrivais aux séances, j'étais baf à l'heure. Et j'étais tout seul. À la française, ou à la suisse, il commence à l'heure. Alors du coup, maintenant, il arrive après tout le monde. Et il me dit, bah, maintenant, on m'a dit, t'es encore plus arabe que nous. Au lieu de prendre ses qualités d'arriver à l'heure selon les principes musulmans, on l'a colonisé, lui il est parti complètement à l'ouest. Il fait pire que nous. Il dit, bah, c'est comme ça chez les musulmans. Non, chez les arabes. Mais oui, mais ce qu'on devrait faire, c'est qu'ils ont au moins cette capacité. Ici, ils ont vécu avec l'organisation, on commence, on fait... Nous, on fait le contraire. Il faut que tu sois souple, mon frère. Mais non, respecte les principes. Ça, c'est important, parce que là, on en rigole un peu, mais il y en a qui souffrent de ça. Il y en a, on leur demande de s'arracher de leur culture pour être musulmans acceptés par nous. C'est faux. Ça n'existe pas. Les principes nous unissent et le respect de ces divergences. Mais se demande ce respect-là, les uns et les autres, de beaucoup. Vous savez ce que ça demande? De ne pas confondre le respect des principes avec le manque de psychologie. Il faut le respect des principes et beaucoup de psychologie, de compréhension, les uns et les autres, de comprendre qu'il y a des choses qui sont... Alors ça, c'est dans la communauté, c'est dans le couple. Des fois, vous écoutez des couples qui sont qu'on appelle des couples mixtes, ils se disputent sur des choses, vous dites, subhanallah, simplement, il aurait fallu un tout petit peu de psychologie, qu'ils comprennent. Et ça m'amène au troisième point. C'est de ne pas idéaliser. Il y en a, ils se disent, voilà, je suis musulman. Tu es musulman, ça baigne. Mais non, ça c'est une vue idéaliste et simpliste. Je suis musulman, tu es musulman, on va se comprendre dans les limites. Mais après, on reste des êtres humains, il faut qu'on se comprenne. Et surtout dans les couples, il y en a qui idéalisent. Il ou elle s'est converti à l'islam, je suis musulman, on va faire un couple magnifique. Jamais de dispute. Et c'est pas vrai, parce que vous le savez que c'est pas vrai. Dans notre communauté, c'est comme ça. Il faut véritablement qu'on ne soit pas des enfants, qu'on n'infantilise pas notre rapport aux principes. Nos principes sont nos murs, notre psychologie fait vivre la maison. Comprenez? Avec les principes, on construit la maison dans laquelle on va vivre tous les deux. Et là-dessus, on est d'accord, on a vu que là, il y avait un mur, on voit que là, il y a un mur, on voit que là, il y a un mur, on voit qu'il y a un mur. Ensuite, toute notre psychologie habille la maison, donne l'atmosphère, de la compréhension et de la délicatesse. Ça, c'est dans un couple mixte. Dans notre communauté, ça doit être la même chose. Et vous voyez des choses, des fois, dans des associations islamiques où il y avait des convertis avec des personnes qui ne le sont pas, qui sont nées dans l'islam comme ceci, vous dites, mais ils se disputent parce qu'ils manquent de psychologie, ils prennent pas le temps de faire l'effort de comprendre comment l'autre vient. Et il y en a un, toujours, qui est en train de penser, oui, non, mais il n'est pas tout à fait musulman. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas tout à fait arabe. Ou il n'est pas tout à fait turc. Et puis l'autre, finalement, des fois, se développe quelque chose d'inverse chez les convertis. Il te regarde, il te dit, mais aïe, 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 les Arabes. Mais c'est vrai, vous connaissez ça, la même chose. Et finalement, on se regarde entre Français en se disant, aïe, aïe, aïe. Et les principes sont oubliés. Alors que ce devrait être ce qui nous unit dans la psychologie, on se divise en passant par la périphérie. On se divise sur ces choses-là. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas atteint cette espèce de sensibilité qu'est tout l'islam, qui a fait que le prophète al-Islam pouvait vivre avec une personne d'origine perse, une personne d'origine d'Abyssinie, une personne... C'était comme ça. Ce respect-là, cette grandeur qui fait que on n'est pas simplement opposé au racisme. Comprenez-moi bien. On n'est pas simplement opposé au racisme par les principes. On est opposé au racisme par le surplus de psychologie qu'il doit y avoir en nous pour comprendre ces différences. Parce que c'est facile d'être assis là en disant, moi, je ne suis pas raciste. Tu sais pourquoi ? Parce qu'en islam, tu ne peux pas. Il y en a qui sont comme ça. Il te dit, en islam, tu ne peux pas. Puis tu regardes dans sa vie quotidienne, dès qu'il voit qu'il y a un Français musulman dans les parages, ça ne va pas aller ça. Et de l'autre côté, c'est la même chose. Et vous voyez des comportements, ou alors nous on a une expérience très 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 vivante avec les musulmans d'origine arabe et les musulmans d'origine turque. Ça, s'il n'y a pas de psychologie, c'est explosif. Hein. S'il y en a un, il faut organiser quand même. Et l'autre, alors il y a l'autre qui est comme ça, et l'autre qui est... Puis finalement, ça tient des discours très 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 négatifs. Bien. Ce que j'aimerais vous mettre en évidence, c'est justement qu'il ne faut pas idéaliser. On n'a pas à idéaliser. Et dans cette communauté, il faut qu'on passe à une maturité maintenant. Une maturité, ça veut dire on sait ses principes et on essaie de se comprendre. Il faut développer dans cette communauté une véritable maturité de la diversité, et avec les convertis à plus forte raison. Parce que si on ne passe pas par là, il va se passer ce qui se passe chez certains d'entre les convertis. Soit ils ont véritablement l'impression qu'on ne les accepte pas parce qu'on manque de cette finesse. Soit ils auront l'impression qu'il faut forcément nous ressembler pour apporter quelque chose à la communauté. C'est faux. Je crois même que c'est parce qu'ils ne ressemblent pas à ce que nous sommes qu'ils peuvent apporter quelque chose pour ce que nous serons en Europe. Et que ça, il faut qu'on comprenne et qu'on fasse comprendre qu'il y a énormément de compétences à prendre chez ceux qui viennent avec une autre origine et une autre histoire. Alors, dans ce phénomène de ne pas idéaliser, j'aimerais mettre en évidence juste une chose. C'est que tout ce que je suis en train de vous dire, ça demande un apprentissage. Ça demande un apprentissage de chacun d'entre nous. C'est effectivement... Et c'est ce que j'appelle justement l'apprentissage et cette maturité pour les uns et les autres. C'est effectivement de faire en sorte, personnellement, les uns et les autres, de commencer dans nos rapports les uns avec les autres, dans cette diversité d'origine, de bien faire la part entre des principes et puis surtout d'avoir cette sensibilité de l'histoire des autres pour ne pas justement juger l'histoire de quelqu'un, de ne pas faire en sorte d'oublier l'histoire de quelqu'un. Et puis de développer un tout nouvel état d'esprit de ton histoire, de ton pays, de ta vie ici. Prends tout ce qu'il y a de bien et donne-le-nous. Si on veut véritablement que l'islam se réalise dans son universalité, on va prendre tout ce qu'il y a de bien ici. Et vous savez qui peut nous y aider ? Justement, les êtres qui ont cheminé ici et qui sont d'ici et qui parfois même développe une bonne compréhension parce qu'ils ont vécu, parce qu'ils sont nés, parce qu'ils savent, eh bien, ils peuvent nous apporter quelque chose. Encore faut-il que nous accédions à une des choses les plus difficiles à faire passer dans notre communauté, la capacité d'écouter. Écouter. Écouter ce que celui qui chemine dit de sa vie. Il y en a combien qui, quand il voit une personne qui s'est convertie à l'islam, s'arrête et prenne le temps de lui dire « Attends, raconte-moi, comment ça s'est passé ? Qu'est-ce qui a été important ? À quel moment ? Pourquoi ? Parle. » Et là, vous allez comprendre qu'il y a plein de choses qui sont très, très importantes. Nous, leur vie, elle commence au moment où ils se sont convertis. Mais ce n'est pas vrai. Tu ne comprendras pas là où tu vis si tu n'écoutes pas leur vie là où tu vis et qui les a amenés. Donc prendre le temps de cette écoute à l'intérieur de notre communauté, c'est capital. Pour redonner leur place à ceux qui ont fait tout ce cheminement-là. Bien, il y en a combien de convertis qui ont l'impression qu'on les écoute? Qu'on les écoute sur leur cheminement, sur leur expérience, sur leurs compétences. Il n'y en a pas beaucoup. Ou alors, encore une fois, on fait la différence entre le passé de certains et le passé des autres dans une idéalisation ou dans un mépris. S'il se trouve que le converti ou la convertie vient de très haut dans la société dans laquelle il était, alors on est plein d'admiration et on écoute son passé. Mais si c'est quelqu'un qu'on considérait dans la société, il vient pas, il était anonyme, alors on écoute très très peu. Alors il y en a plein parmi vous, parmi nous, qui connaissent très très bien l'histoire de Youssouf Islam. Ça vraiment, et c'est vrai que c'est édifiant. Au sommet d'une vague, à deux doigts de se noyer, « Oh Dieu, si tu me sauves, je donnerai ma vie pour toi. » Et la vague le ramène. Et il est devenu Youssouf Islam avant, après avoir été Cat Stevens. Alors ça, le grand chanteur. Alhamdoulillah, l'islam de cet homme et son engagement dans la communauté musulmane a montré tout ce que cet homme a donné à cette communauté. Alhamdoulillah, hafizahullah. Et donc c'est fantastique, comme a été également fantastique le chemin d'autres intellectuels. Même parfois, qu'on est tellement ébahi de leur passé qu'en deux semaines après leur conversion, ils sont devenus des mouftis de la communauté. Et il y en a certains qui vous disent, moi je venais de rentrer dans l'islam, je venais de me convertir, et on commençait à me poser des questions sur des éléments de droit et de jurisprudence. Mais il vient de venir. En fait, ce qui nous a troublés, ou ce qui a troublé la communauté, c'est d'où il venait. Il était tellement grand avant que forcément il a continué à être grand à notre regard. Et puis, des gens, là où on vit, ont vécu des choses extraordinaires. Je me souviens ici, dans cette salle, d'avoir rencontré quelqu'un qui disait « Moi, je suis venu à l'islam de façon très, très particulière. J'étais dans une soirée autour... » Ici, dans cette salle, je l'ai rencontré. Subhanallah. Je vous en parle maintenant. C'est la première fois que je suis rentré dans cette salle, il y a quelques années. C'était avec ce frère qui disait « On était dans une soirée comme ceci. » Et cette soirée, elle était une soirée de une sorte de lévitation, comme ça, autour de la table. Vous savez, la magie, comme ceci, on met les mains au-dessus de la table, puis il commence à planer un peu. Et vous savez ce que Allah subhanahu wa ta'ala a fait? Vous savez ce qu'il a fait? Au moment où ils étaient autour de cette table, au moment où ils commençaient à avoir des visions, ils voient le Coran. Et ce qui ressort, c'est qu'il doit lire le Coran. Et puis, c'est cet homme-là qui a été invité ici à parler d'un livre qu'il a écrit sur les trois monothéismes. Il s'est converti à l'islam après avoir eu un signe comme ceci dans quelque chose qui était très loin de l'islam. Mais tout ça, faut écouter. Faut écouter qu'il y a des gens qui sont très très loin, comme par exemple tous ceux qui sont dans des prisons comme ceci, à un moment donné, ils sont dans une prison, quelque chose se passe. Et nous, dans notre communauté, on n'écoute pas ces histoires-là. Pourtant, ces histoires-là, non seulement elles fortifient notre foi, mais elles nous permettent de comprendre ce qui se passe dans un être qui chemine. Nous ne sommes pas à l'écoute de nos frères. Et s'il faut que je sois célèbre pour que tu m'écoutes, eh bien, tu respectes peu ton oreille. Parce qu'il faut que je sois ton frère pour que tu m'écoutes. Et ta sœur pour que tu m'écoutes. Alors, écoute-moi, si tu as vraiment compris que j'étais ton frère et ta sœur, pas si je suis célèbre. Parce que sinon, tu es entré dans le jeu de cette société où on écoute les idoles, même si elles disent des âneries. Et il y en a beaucoup quand même qui... Bon, enfin bref, d'accord? Mais cette dimension d'écoute, elle est importante. Elle est importante. Et moi, j'aimerais quand même vous traduire. J'aimerais quand même vous traduire. C'est pour ça que je choisis ce sujet. J'aimerais quand même vous traduire le dépit d'un certain nombre de frères et de sœurs. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'on est dans cette communauté? On sert à quoi? On est très content que tu sois devenu musulman. On est très content que tu sois devenu musulmane. Mais tu ne sers pas à grand-chose, parce qu'on ne va pas tellement t'écouter. Puis si tu agis mal, on va te rappeler ton passé. Tu n'es jamais complètement dedans, mais tu peux vite être considéré comme dehors. Et alors, je sers à quoi? Et il y en a qui souffrent de ça. Et alors c'est vrai dans les couples, parce qu'il y en a pendant des années et des années de mariage, ils ne font qu'au reprocher à celui ou celle qui est devenu musulman d'avoir été autre chose auparavant. Et ça, ça ne va pas. Et ça, ça vient du fait qu'on a idéalisé avant. Alors, la perspective d'avenir que je vous propose, elle est fondée sur quatre axes. Et les quatre axes, j'aimerais quand même qu'on en retienne et qu'on y réfléchisse. La première des choses qui me paraît quand même importante et qui va faire beaucoup de bien à notre communauté si on y réfléchit. Essayez de vous poser la question et vous verrez que c'est très très fréquent si vous parlez avec des personnes qui se sont converties à l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala les a souvent fait venir et leur a ouvert le cœur par une chose. C'est la spiritualité. C'est qu'on est dans une société qui a une véritable et qui est véritablement en crise sur le plan spirituel. Et eux, c'est ça, souvent ceci qui a été le cœur qui s'est ouvert. Et il s'est ouvert à cette dimension de spiritualité. Alors il y a deux choses qui sont importantes pour nous. C'est qu'il faut écouter et il faut que notre communauté, quand elle se sent comme ceci oppressée et agressée par l'environnement, eh bien, elle écoute ceux qui viennent de cet environnement et qui disent « J'ai trouvé ici la paix de mon cœur. » Et on sait ceci, nous. Est-ce que ce n'est pas au rappel de Dieu que les cœurs s'apaisent? Eh bien, eux, ils viennent et ils ont envie d'entendre de spiritualité. Et ils poussent notre communauté à ne pas tomber dans ce piège de l'enfermement comme ceci, uniquement sur le principe. Ils veulent et ils amènent et ils questionnent. Et ils sont venus à cette religion par la spiritualité. Et c'est une des choses très très importantes, c'est qu'on soit à l'écoute de cette dimension spirituelle et surtout qu'on la remette au centre de notre vie les uns et les autres. Et ça, c'est l'un des plus grands apports que les convertis peuvent amener à notre communauté. Justement, cette dimension de spiritualité, cette dimension de rappel que c'est quand même une des dimensions essentielles. Et ne pas oublier que s'ils sont venus à cette religion, c'est de cette dimension fondamentalement. Et surtout ne pas faire alors autre chose, c'est de tomber dans le piège et dire « Ah, mais tu sais, oui, non, la spiritualité, le soufisme, l'autre islam. » Alors il y en a certains qui aimeraient bien nous amener à cela. Un certain nombre d'orientalistes, ils vous disent « Il y a l'islam des orthodoxes, celui où tu pries, et l'autre où tu médites. » Il y a deux islams. Et il y en a même certains parmi nous dans notre communauté qui tombent dans ce piège-là. C'est-à-dire que quand ils voient un musulman ou quelqu'un qui se convertit à l'islam et qui choisit la voie mystique, ils le déconsidèrent en le mettant même à distance de leur association. Alors qu'en fait, lui, il a trouvé les premières personnes qui vont lui parler de ceci. Mais nous, dans notre religion quotidienne, dans notre pratique quotidienne, la mystique est présente, la spiritualité est présente, l'approfondissement, l'intimité. Ne tombons pas dans le piège de dire « Oh, il y a les mystiques, ils méditent tout le temps, puis nous on prie à la lettre. » Et malheur à celui qui ne respecte pas l'heure. Et alors là, on tombe dans ce piège de dire « Il y a deux choses. » Bien sûr, on est pour la précision dans la pratique, mais on est dans la profondeur du cœur aussi. Et ça, il faut qu'on réunisse ces deux dimensions-là. Et pas qu'on laisse entendre ou qu'on fasse en sorte qu'à trop négliger la dimension spirituelle, on pousse des gens qui sont venus pour la spiritualité à aller dans des cercles où il n'y a pratiquement plus de pratiques quotidiennes. C'est uniquement dans le cœur éthéré que ça se passe. Ils ne s'engagent plus dans la communauté, on ne les voit plus dans nos associations, on ne les voit plus travailler sur le terrain. Pourquoi ? Parce que là, on ne parle pas de cœur. Eh bien, sachons nous laisser interpeller par un certain nombre de frères, un certain nombre de sœurs qui sont venus avec ça et qui demandent à notre communauté d'être fidèles à son message. Votre message est un message de spiritualité. Vous feriez bien de ne pas l'oublier. Parce qu'alors, justement, on va trouver des personnes qui viennent à l'islam et qui s'éloignent de nous parce qu'ils n'ont pas trouvé en nous ce que l'islam disait pourtant. Et ce qu'il disait, c'est « Réveille ton cœur, ouvre ton cœur ». Réunissons ces deux dimensions-là aussi et laissons-nous interpeller. C'est une des dimensions que ces personnes dans notre communauté peuvent apporter. C'est une richesse, c'est un rappel, c'est une réorientation. N'oubliez pas le cœur, n'oubliez pas la spiritualité dans une société qui a tellement besoin de ça. Et surtout, ne tombez pas dans le piège. Il y a l'islam orthodoxe, entre guillemets, d'un côté, il y a un autre islam mystique de l'autre. Non, il y a un islam. Et bienheureux celui qui sait vivre avec la règle et approfondir la spiritualité dans son cœur. Bienheureux celui-ci qui sait vivre avec la règle et approfondir, mais qui ne néglige pas l'un pour l'autre. Deuxième dimension, c'est prendre leurs qualités, c'est prendre les qualités de tout ce qu'il y a dans cette société-là. Et là aussi, il y en a certains, et dans certaines associations, on est un peu fermé comme ceci, et on voit de notre environnement que les défauts. Et je crois que c'est bon, c'est très important de finalement d'être fidèle à notre message. Je crois que les convertis dans notre communauté vont nous pousser à être fidèles à notre message. La première des choses dans la fidélité, c'est ce que je viens de dire, dans la spiritualité. Mais la deuxième des choses dans lesquelles ils vont pousser cette communauté à être fidèle, c'est de dire, mais attention, vous dites, et vous ne cessez de répéter à chacune des conférences, à chacune des rencontres, que l'islam est universel, n'est-ce pas? Vous le dites. Donc, si c'est universel, je peux tout à fait être français ou européen et être musulman. Il s'agit simplement pour moi de rester ce que je suis, en respectant les règles que Dieu me demande de respecter et d'apporter dans cette religion toutes les communes, toutes les qualités du lieu où je vis, toutes les qualités qu'il y a dans cette société-là. Et vous savez très bien qu'il y en a des qualités dans la société dans laquelle vous vivez. Il y a, sur le plan administratif, sur le plan des relations humaines, des attitudes que vous voyez chez les gens, vous dites c'est ça, c'est bien, parce que ça c'est islamique, c'est respectueux, c'est ordonné, c'est clair. Eh bien, on va tout prendre ça. Et c'est en étant à l'écoute de ces personnes qui sont maintenant dans notre communauté qu'on va pouvoir s'enrichir des qualités de notre environnement. Mais ça, ça demande beaucoup, beaucoup d'élévation. De se dire, quand on a quelqu'un dans une association musulmane, quand on a quelqu'un qui vit dans notre environnement, quand on est dans notre couple, qu'on se dise, mais je vais changer pour prendre toutes les qualités qui sont bien chez l'autre. Les qualités, il faut qu'elles soient bien. Je veux dire, il faut qu'elles soient utilisées, qu'elles apportent un plus dans notre communauté. Et vous voyez, vraiment, moi je renvoie aussi à un certain nombre de frères et de sœurs qui sont en couple et en permanence, leur rapport à l'autre, c'est de le mettre en état d'accusation. On ne prend jamais les qualités de l'autre, on ne fait plus d'efforts. Et pourtant, je vous promets, pour le vivre moi-même, dans un couple justement où deux origines culturelles se rencontrent, les principes unissent et on s'enrichit de la qualité de l'autre en se disant, ben, il faudra peut-être que je réfléchisse à ça. Parce qu'il y a des choses qui sont importantes. Nous, on a, par exemple, des choses qu'on sait que le prophète alayhi salam faisait même à la maison, il servait. Alors qu'aujourd'hui, dans des maisons qui sont d'origine nord-africaine ou simplement africaine, l'homme il bouge pas. Et si ta femme ou si ton mari, ben il vient lui de France, et que là en France, eh ben on a plus l'habitude de servir, dis-toi qu'il te rappelle des choses que le prophète alayhi salam faisait. Ne fais pas en sorte qu'il devienne comme toi tu es, parce que toi tu ne respectes pas, même si c'est ton origine culturelle. Prends de lui ce qu'il y a de bien. Il sert. Son épouse, il aide son épouse. Elle aide, elle sert. Tout ça, c'est bon. Va le prendre. Pourquoi? Parce que ça rend plus, ça répond à nos qualités. Et il y en a certains qui disent, non, il faut que ce soit comme moi, je l'ai vécu. C'est pas bon, ça. Il faut vraiment tirer les qualités. Troisième dimension, rapidement, c'est... On a besoin, vraiment, dans notre communauté, comme... Première étape de la rencontre avec l'environnement dans lequel nous sommes, de vraiment étudier, d'écouter, d'analyser les expériences passées de ceux qui sont avec nous dans le présent. Il faut écouter ça. Non pas par curiosité malsaine. Il ne faut rien écouter de ce que la personne n'a pas envie de dire par rapport à son propre passé. Ça la regarde devant Dieu. Mais tout ce qui peut être dit, et je vous promets, à des moments donnés, c'est vraiment une grande source. Une grande source d'enseignement. C'est vraiment un savoir. C'est un livre ouvert, la vie de certaines personnes quand elles se convertissent dans leur cheminement. Et ça vous permet d'avoir sur la société dans laquelle vous vivez une énorme connaissance profonde, affective, psychologique. Il faut écouter ces choses-là. Et ces éléments-là sont un rapport aussi par rapport à notre société. En d'autres termes, il faut qu'ils deviennent, par rapport à notre environnement, comme des ponts, des passerelles qui nous permettent de mieux comprendre. Dans la communauté, mais pour mieux comprendre notre environnement et comprendre dans leur passé ce qui peut se dire. Il y a parfois, vous vous dites des choses, parfois moi il m'est arrivé de dire des choses comme ceci dans les conférences. Et mon épouse, franco-suisse, qui me dit « mais ça va pas, j'aime pas ça ». Alors j'ai deux choses à dire. T'aimes pas ça, toi. C'est l'islam. Vous décidez d'écouter qu'est-ce qu'elle dit. Pourquoi j'aime pas? Pourquoi, avec son histoire, quelque chose que je dis avec la mienne ne fait pas écho dans la sienne de conscience et d'intelligence? Et là, vous apprenez plein de choses. Mais il faut avoir ce temps d'écoute. Pourquoi elle n'aime pas? Pourquoi ça ne sonne pas? Parce que des fois, vous utilisez des mots qui sont évidents par rapport à votre histoire, qui ne correspondent pas à la leur. Si on n'écoute pas ça, on ment en disant que l'islam est universel, parce qu'on fait l'universalité des principes et rien dans la psychologie de la diversité. Eh bien, il faut faire ce travail-là, je crois qu'il est très très important. Et vous savez, c'est dans des petits détails, dans des petits détails. Il y a des personnes, parfois, elles sont choquées rien que dans la façon dont on a de se comporter comme ça socialement. Et le dernier élément, c'est dans nos associations. Je termine là-dessus. Dans nos associations, dans nos activités sociales, là aussi, il y a des musulmanes et des musulmans convertis qui ne trouvent pas leur place. Ou parfois, on leur fait comprendre que, puisque tu ne connais pas l'arabe, tu es moins bon. Tu peux pas. Et comme si on avait demandé à tous les musulmans et à toutes les musulmanes d'être des ulama. Mais non. Donc, plus que tu n'as pas la compétence de la langue, tu n'as pas de compétence. Eh bien, ça aussi, c'est quelque chose contre lequel il faut lutter. C'est une chose contre laquelle il faut lutter. C'est-à-dire que ces personnes-là, elles ont un statut et des compétences et qu'il faut qu'on prenne toutes ces compétences. On ne leur demande pas de faire un tafsir du Coran. Et même, parfois, il y en a qui font un effort énorme par rapport à ça et qui peuvent apporter des éléments d'intelligence très, 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 très intéressants et qui font cet effort. Donc, il faut tirer cette compétence. Mais on ne va pas diminuer en permanence une personne parce qu'elle ne connaît pas la langue. Et ne plus tirer parti de ses compétences. Dans nos associations, il y en a certains, ils ne peuvent même pas s'exprimer tellement ils ont un regard porté sur eux qu'il les diminue parce que tu connais pas la langue, parce que comme si, en fait, dès que tu connais l'arabe, tu es forcément meilleur musulman. Non mais, vous voyez un peu ce qui se passe dans le monde. On a la preuve, 10 fois la preuve par le contraire. C'est vraiment pas dans ces pays-là que c'est le mieux appliqué. Donc il ne suffit pas d'avoir la langue pour avoir la foi. Mais par contre, je peux avoir la langue, je peux avoir la foi, même s'il me manque un peu de langue. Prends mes compétences dans l'association, prends ce que je peux donner. Et donne-moi en fonction des compétences, travaillons ensemble, qu'ils aient la possibilité de s'exprimer dans ces associations. Ce n'est pas le cas, on les diminue trop. Et ça m'amène à un des points aussi qui paraît finalement... qui sera la conclusion. On a dans notre communauté quelque chose qui s'est développé, j'en ai beaucoup parlé, c'est la crainte. Et il y a certains musulmans qui sont d'origine d'Afrique et qui, par exemple, par rapport à la France, ne peuvent pas imaginer que la France, un jour, donne ses droits à un musulman et une musulmane. Et des fois, ils sont étonnés. Tu te rends compte ce qu'ils ont fait? Pas possible, quand même. Et vous avez à côté de ceci quelqu'un qui est musulman ou une musulmane convertie qui dit, mais c'est normal. Et il y a une crainte chez les uns qu'il n'y a pas chez les autres. Et nous, le problème, c'est qu'on est plutôt en train de les coloniser avec nos craintes. Et je me souviens justement d'un converti qui disait, mais t'en as certains, quand tu vas les voir, ils ont peur de tout. Alors évidemment, on comprend ceci avec l'histoire. Mais oui, ils ne le comprennent pas, ils sont ici chez eux. Français, une Française, qu'est-ce que tu me demandes de m'intégrer? Mais je suis chez moi. Toi, tu commences à me parler de pas avoir peur, de stratégie de communication. Tu veux, je parle comme je parle. Je suis chez moi. Je n'ai pas à avoir peur. Il y en a un qui me disait, il me dit, il y en a certains, tu vas vers eux, comme je vous ai déjà expliqué, tu leur dis, est-ce que tu as prié, ça là, t'es là, ça, il te regarde comme ça. Je ne peux pas te dire. Il a peur. Il dit, et il riait comme ça en disant, tu vois, ça arrive à un tel point, il rit, c'est pas comme ça que ça se passe, mais il me dit, il y en a certains qui ont développé une telle peur, qui sont craintifs ici. Eh bien, ceux qui, effectivement, vont vous faire changer le discours aussi avec nous ici, ce sont ceux qui vont nous aider à changer cet état d'esprit. Ils sont chez eux. Il n'y a pas de peur à avoir. Alors, nous, on a déjà dit aujourd'hui que sur le plan psychologique, l'islam, sur le plan spirituel, l'islam va nous donner de la force. Mais sur le plan psychologique, les personnes qui se sont converties à l'islam et qui vivent ici, ils vont nous donner cette force de la même façon. Ils n'ont pas peur. Ils ne doivent pas avoir peur. Et ce n'est pas à nous d'aller commencer à leur mettre la peur dans la tête. Et ça, ça arrive. Et il y en a certains, ils sont ici chez eux, ils sont nés en France, ils sont de plusieurs générations français, et ils se convertissent à l'islam, et quand tu les entends, ils commencent à te dire, oui, mais eux, cette société-là, ça va pas, et ils commencent à parler de chez eux comme s'ils étaient sur un champ de bataille. Mais ça, ça vient de notre façon de réfléchir. C'est-à-dire qu'au lieu de rayonner dans leur société, ils commencent à faire deux clans. Et vous entendez des... Moi, j'ai entendu des choses sidérantes de sœurs converties ou de frères convertis. Ils sont plus durs que ceux qui viennent des pays. Je dis, eux, alors non, il ne faut pas se mélanger. Mais comment tu ne veux pas? Tu viens de là. Il ne faut pas se mélanger. Ils développent dans leur esprit quelque chose qui ne vient pas d'eux et qui vient d'une façon de concevoir notre présence. Et je crois que c'est une des choses qu'il faut aussi se construire. J'aime beaucoup de ce point de vue-là. Permettez-moi de finir avec lui parce que c'est un bon modèle. Quelqu'un comme Youssouf Islam. Dis-moi, je suis britannique. Le premier qui m'attaque dans ma personne, je vais utiliser le droit qui est le mien dans ce pays parce que je suis suisse-victorien. Et il est sans rien penser. La peur de rien. C'est mon droit ici, parce que je suis chez moi. Vous n'avez pas à me dire si je vais m'intégrer ou pas. Je suis britannique. Je suis chez moi. Et je me défendrai avec le droit qui me défend moi comme vous. Et il ne laisse rien passer. C'est toute situation où il y a quelqu'un qui le méprise, où il y a quelqu'un qui le calomnie, c'est par le droit. Et il a développé... Et il développe autour de lui les gens qui sont d'origine pakistanaise, quand ils sont dans son entourage, alors ils sont réconfortés. Parce que lui, alors, il n'a pas de complexe. Et je pense que si on avait plus de convertis dont on prenait la qualité de ne pas avoir de complexe plutôt que de les coloniser avec les nôtres, eh bien, Inch'Allah, l'avenir de notre communauté, ce serait quelque chose qui est une communauté qui sait où elle se trouve. Et c'est peut-être ceci, l'avenir, Inch'Allah. Donc, ne pas leur demander de renier leur passé, de ne pas leur reprocher ce passé, de faire en sorte qu'il ne faut pas idéaliser, avoir un peu de psychologie dans notre façon de gérer les choses ensemble, et puis prendre toutes les qualités qu'ils peuvent nous apporter, appliquer ce qu'on dit, à savoir la spiritualité fondamentale, appliquer ce qu'on dit en disant que l'islam est universel, et faire en sorte de céder de leur présence pour ne plus avoir de complexe dans cette communauté. Ils sont chez eux, et il y en a beaucoup d'entre nous maintenant, de la deuxième, de la troisième, de la quatrième génération, qui, comme les Français, comme les Françaises, sont chez eux, et c'est cet état d'esprit qu'il faut développer. En ce sens, on prend leurs qualités plutôt que de les coloniser avec nos défauts. Barakallahu fikum jami'an.